Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, notre émission est entièrement consacrée aux voisins et aux voisines en Haïti. Le pays vit une telle crise qu'en ce mois de janvier, le souvenir du 12 janvier, où le séisme a tué plus de 200 000 personnes il y a 10 ans, n'est plus la priorité. Plus urgent que les commémorations, la survie au quotidien. Un Haïtien sur trois a besoin d'une aide alimentaire immédiate. Selon les Nations Unies, il faudra une aide d'urgence à plus de 4,5 millions d'Haïtiens en 2020, l'insécurité à cause des gangs, le système de santé à terre, l'inflation, l'économie au ralenti, le chômage exponentiel, sauf qui peut en Haïti, dans une colère généralisée contre les élites au pouvoir, en particulier depuis le scandale de corruption, l'affaire des Pétro-Caraïbes. Vous avez la parole pour nous parler de ce que vous vivez au quotidien, les voisines, les voisins, haïtiens, haïtiennes. Mettre des mots pour ordonner le chaos et peut-être pour mieux espérer, notamment pour la jeunesse, parce que 70% de la population a moins de 30 ans en Haïti. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le WhatsApp pour appeler gratuitement et nous laisser des messages. Je vous présente nos invités dans le studio. Josette Bruffat-Thomas, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes haïtienne, présidente de l'association Haïti Futur, association franco-haïtienne chargée de promouvoir la culture, l'éducation, l'entrepreneuriat sur le territoire haïtien. Autant de mirages quand on regarde l'état du pays aujourd'hui. Mais en tout cas, vous avez fait, vous me disiez avant qu'on démarre l'émission, depuis le tremblement de terre, combien d'allers-retours avec votre
52
pays
allers-retours.
Et vous étiez dans l'avion le jour du séisme,
tout
il y a 10 ans.
J'étais dans l'avion, le dernier avion des Caraïbes qui atterrissait au moment où la tour de contrôle est tombée. Donc nous avons dû repartir sur Pointe-à-Pitre.
Tout cela semble si loin en même temps, vu ce que vit votre pays aujourd'hui. Jean-Marie Théoda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes haïtien, géographe à la Sorbonne, parisien et professeur à l'Université d'État d'Haïti. Vous avez publié un texte dans le journal Libération en octobre dernier, « Lettre de Port-au-Prince sur fond de guerre civile ». Vous êtes reparti juste après le séisme en Haïti.
Tout à fait, ça va faire maintenant 10 ans. Et je suis de retour dans cette ambiance chaotique que vous venez tout à l'heure de brosser.
On sera en ligne également avec Jackie Lumarque, recteur fondateur de l'université privée Quisqueya à Port-au-Prince, une université très reconnue, prestigieuse, qui est également pour le moment à terre. Et Ghislaine Jean-Louis, directrice d'une école élémentaire dans la banlieue de Port-au-Prince, à Croix-des-Bouquets, qui est pour le moment aux États-Unis. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone pour faire entendre votre voix d'Haïti. Je vous lis quelques messages que nous avons reçus, qui ont été postés aussi audio sur WhatsApp. Mathieu a posté le texte suivant. Il est étudiant en droit, il habite au village, à Village de Dieu, au sud de Port-au-Prince. Le quotidien des Haïtiens est synonyme d'enfer, nous dit Mathieu. Nous n'avons pas accès aux produits de première nécessité. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Des gens sont enlevés, violés. Dans chaque coin, il y a un petit gang. Des crimes atroces sont commis quotidiennement. J'ai l'impression, nous dit Mathieu, que chaque Haïtien cherche à en tuer un autre. Des enfants sont armés de gros calibres. D'autres sont assassinés, parfois brûlés vifs. J'ai vu une fillette de 14 ans brûlée vive parce que son cousin appartenait à un gang adverse. La police, qui devrait garantir la sécurité de chaque personne, participe à des massacres aux côtés des gangs armés. J'ai honte d'être un Haïtien. Si l'enfer est plus dur ou égal à mon quotidien, alors il faut remettre en question la bonté de Dieu. Voilà, c'est Mathieu, étudiant. Joseph a 24 ans, il est agressier en banlieue de Port-au-Prince, en deuxième année de langue à l'Université d'État d'Haïti. Mon université est fermée depuis le mois de juillet, elle rouvre la semaine prochaine. Moi, ce que je veux, c'est la sécurité et l'ordre dans mon pays. Et puis il y a aussi un message d'une voisine postée de Cap-Haïtien, la deuxième ville dans le nord du pays. On l'écoute.
Bonjour, je suis Rodjana Félicitain, je vis au Cap-Haïtien. La ville du Cap avant le séisme était la plus belle province d'Haïti. Maintenant, elle est la plus sale. Les rues sont dans un état grave, déplorable. L'air que nous respirons est pollué et nos mondes sont déboisés. Et les Capois sont des pourrianistes, ils s'en foutent complètement. Les maires sont des irresponsables et nos élus nationaux ne pensent qu'à remplir leurs poches. Ils ne sensibilisent pas le peuple. Ils ignorent les jeunes qui sont des espoirs de demain. Ils n'ont pas levé le petit doigt pour nous aider à combattre le réchauffement climatique. On est abandonnés à notre triste sort.
Et puis il y a aussi Joanne à Port-au-Prince qui a posté au 33 1 84 22 71 71.
Salut 7 milliards de voisins. 5 ans après le séisme, on pensait que le pays était en reconstruction. Ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Mais la partie la plus dure est venue après l'élection, où on a eu à choisir un autre président qu'autre que le président Matéli. On ne peut pas dire qu'on s'est enlisé parce que c'est un petit pays. C'est tout simplement parce que les gens pensent que les étrangers doivent venir et faire les choses à leur place. Et on n'investit pas vraiment pour que l'eau arrive dans les robinets, pour qu'on puisse manger à notre faim. On est devenu un pays fragilisé. Il n'y a plus d'électricité. On n'arrive même pas à marcher dans la rue. Les gens ne peuvent pas aller à l'hôpital s'ils ont un problème. Et ceci est effectif pour tout le monde. On ne peut pas dire pour les gens qui sont riches, pauvres. Si on ne peut pas aller à l'étranger, on ne pourra pas se soigner. Des gens peuvent travailler, mais ils n'arrivent pas à trouver. Vivre comme nous vivons, franchement, c'est dur, c'est injuste.
J'ai passé 3 mois sans aller à l'école. Le mois de décembre, mon directeur avait décidé d'ouvrir l'école, car nous avions perdu trop de temps sans aller à l'école. Mais ce n'était pas en uniforme, c'était en civil. En raison qu'il y avait des individus armés, qui était là pour tabasser les élèves, les kidnapper. Mon pays est sur une mauvaise voie. La corruption fait rage. Je suis contre la corruption, car ça empêche le développement de mon pays. Vivre en Haïti, c'est vivre déjà l'enfer. Moi, en tant que jeune, je ne sais pas ce que je serai demain. Mon plus grand désir, c'est d'être communicatrice, mais hélas, mon pays ne m'offre pas cette chose-là. Après tout ce temps que tu as fait à l'école pour avoir un job, certains des directeurs osera de te demander ta chatte en échange. Si tu ne veux pas, il te dit carrément que tu n'es pas qualifié pour ce job. Pendant que tu as ton diplôme, tu as tous tes papiers en main pour travailler, mais si le directeur ne fait pas du sexe avec toi, t'es fichu. Fichu, fichu. Je ne sais pas en quelle année mon pays va être sur une bonne voie, mais en ce moment, je ne vois pas le changement pour Haïti. Je ne vois pas le changement.
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
Haïtiens, haïtiennes, cette émission 7 milliards de voisins vous est dédiée entièrement aujourd'hui. Jean-Marie Théoda, vous êtes géographe, vous êtes rentré d'Haïti il y a 2 semaines maintenant. Comment se mesure l'effondrement de l'État, l'effondrement du pays ?
Cela se mesure à plusieurs échelles, à l'échelle individuelle. Je pourrais répéter et reprendre à mon compte ce qu'ont dit les différents auditeurs.
C'est dur de les entendre ?
C'est dur, mais c'est d'une banalité à pleurer aujourd'hui à Port-au-Prince. Moi, je vis ça depuis 10 ans, justement. C'est-à-dire le tremblement de terre dont nous commémorons quand même, on va dire, le souvenir. On aurait pu penser que c'était hier, tellement la situation est grave par rapport à ce qu'elle était déjà avant. Et aussi parce que, à l'échelle de l'individu, précisément, on peut dire que rien n'a changé. Notre quotidien est devenu pire qu'avant. À l'échelle de tout le pays, on a encore gravi, je dirais, un échelon dans l'ordre de la gravité et du désespoir. C'est dire que le tableau est sombre, en fait.
Il n'y avait pas d'insécurité réelle, d'agression, de pillage au lendemain du séisme, en tout cas pas immédiatement.
Pas immédiatement au lendemain du séisme, mais...
Mais plutôt c'était, une solidarité.
C'était déjà, on va dire, dans un élan, dans un climat d'insécurité sociale assez général. À l'époque, on se disait que le tremblement de terre est d'une gravité telle que c'est probablement le fond de la mare, qu'on ne pouvait que rebondir. Mais en fait, la preuve est faite qu'on pouvait encore tomber plus bas.
Josette Bruffard-Thomas, vous étiez encore en Haïti cet été?
Oui, j'étais encore en Haïti cet été. D'ordinaire, je fais 6 voyages par an. Je retourne tous les 2 mois. Donc, je fais ces allers-retours. Et cette année, je n'ai pu faire que 3 voyages. Donc, j'ai vu le pays s'effondrer au fur et à mesure. Et comme dit la personne qui a parlé, au bout de 5 ans, on pensait qu'il y avait encore quelque chose qui se faisait. Et puis, c'était juste de l'imposture.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour qu'on comprenne mieux, comment le pays en est arrivé à être entièrement tenu par des gangs dans chaque localité, quartier?
On dit souvent que la nature a horreur du vide. Et je pense qu'en politique, c'est encore plus vrai. Lorsque, au tournant des années 90, la décision a été prise par le président Aristide de dissoudre l'armée, dans sa tête, c'était pour mettre fin au cycle des coups d'État qui étaient souvent perpétrés justement par les États-majors. Mais ce faisant, il a fait en fait un travail de gribouille, au sens que les forces armées d'État d'Haïti n'ayant plus le monopole de la violence légitime, on a vu fleurir d'abord des compagnies de sécurité et qui sont en fait la face, je dirais, socialement vendable d'activités de gang qu'il y a derrière. Et jamais il n'y a eu autant d'armes en circulation dans ce pays. Et dans le fond, cette prolifération des gangs n'est rien d'autre que l'appropriation par des intérêts privés d'un droit régalien qui a tout simplement été mis sous le boisseau par ceux-là qui en avaient la responsabilité légitime. Et donc, pour moi, cette prolifération des gangs, cette insécurité chronique est la conséquence directe de l'absence d'une force d'État.
Et qui se retourne contre la population.
Et qui se retourne contre la population.
Comme à La Saline, en novembre 2018. 71 personnes assassinées, des femmes violées, des maisons incendiées. On a parlé de massacre d'État, selon l'enquête du Réseau national de défense des droits humains.
Bien sûr. Au lieu d'avoir recours à des milices, comme c'était le cas sous les Duvaliers, avec les tontons Macoutes, aujourd'hui on appelle cela des gangs. Mais c'est le même outil pour faire le même travail. C'est-à-dire des civils qui sont payés par des hommes d'État pour faire un travail, non pas de police, mais un travail de terreur auprès de la population qui, elle, revendique ses droits légitimes.
Il faudrait parler aussi de Tokyo, de Bel Air, de Martissan, des quartiers, des communes.
Et de barbecue, c'est-à-dire ce chef de gang, ce chef de gang absolument sanguinaire qui fait la pluie et le beau temps sans jamais être inquiété par la police.
Agent du département du maintien de l'ordre qui a été démis de ses fonctions depuis. Mais effectivement, il n'y a pas de procédure pénale lancée depuis le massacre du quartier très populaire et très pauvre de La Saline. Aujourd'hui, les bus, tout, c'est toute une vie quotidienne qui est affectée par cette insécurité, Josette Bruffard-Thomas.
Oui, tout à fait. C'est toute la vie quotidienne. Et depuis, je prends le point central, moi, qui est le point qui m'intéresse le plus en Haïti, c'est l'école. Quand les enfants ne peuvent pas aller à l'école, quand on sait que déjà ce que représente l'école pour les familles, puisque l'école en Haïti, il y a 16 000 écoles primaires fondamentales en Haïti, il y a seulement 1 600 qui sont publiques, qui sont de l'État. Donc ce sont les familles qui assurent.
En gros, un tiers.
Même pas un tiers, 10 %.
C'est le pays au monde où le système scolaire, le système éducatif est le plus privatisé.
Tout à fait,
avec
tout
le
à fait. Et les familles.
Donc tout repose sur la charge financière des familles.
Tout à fait, tout à fait. La charge financière des familles, donc cette charge financière aussi, est en grande partie tenue par la diaspora, soutenue par la diaspora, qui envoie de l'argent pour l'école. Donc, quand les enfants ne peuvent pas aller à l'école depuis le mois de septembre, depuis le pays lock, les enfants ne peuvent pas
pays
se
bloqué.
Rendre à l'école. Les pays, il y a des gangs qui occupent les établissements scolaires et puis qui rançonnent les directeurs, directrices d'école dans les villes, dans presque toutes les villes. Donc, quand c'est bloqué, paradoxalement, c'est que dans les campagnes très reculées, que ça fonctionne encore.
Justement, nous sommes en ligne avec une directrice d'une école élémentaire et secondaire privée à Croix-des-Bouquets, qui est actuellement aux États-Unis. Bonjour Ghislaine Jean-Louis.
Bonjour.
Vous avez quitté Haïti il y a combien de temps maintenant?
Peut-être une semaine.
Quelle est la situation exacte pour votre école?
En septembre, nous avons eu une semaine de classe. Et ensuite, les enfants n'ont pas pu retourner à l'école. Nous avons essayé de faire quelques tentatives, demandant aux parents de les envoyer en couleur, essayant de travailler peut-être 2 ou 3 jours par semaine, mais ça n'a pas tenu. parce que nous avions peur que l'école ne soit attaquée. Donc, nous avons dû discontinuer. Mmh. Et puis, il y a des parents qui n'ont pas pu emmener leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient pas franchir les barricades. Et j'ai même eu un professeur qui m'a rapporté n'avoir pas pu emmener sa fille à l'école parce que dès qu'on vous voyait avec un enfant dans la rue, mm-hmm. on vous attaquait carrément puisqu'il suspectait que vous alliez emmener votre enfant à l'école. Donc elle-même, elle n'a pas voulu.
Vous comptez rouvrir votre école?
Bon, l'école a déjà repris depuis le 3 janvier. Alors moi-même, étant donné que cette situation de l'OCA a eu un effet vraiment négatif sur moi-même, j'ai pris le large temporairement pour pouvoir me reprendre.
Qu'est-ce que vous entendez par effet négatif, Ghislaine Jean-Louis?
Il y a une sorte d'apathie. Et puis, bon, le corps réagit négativement. On commence à avoir des douleurs à l'estomac ou d'autres problèmes qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Donc, vraiment, c'est pas une situation agréable. Mmh. C'est comme si on se retrouvait en prison sans être accusé de quoi que ce soit.
Est-ce que vous confirmez, Ghislaine Jean-Louis, que des écoles doivent payer des taxes aux gangs pour pouvoir rouvrir?
Je ne peux pas confirmer moi-même puisque je n'ai pas été victime de cette situation. Mais j'en ai entendu parler.
Comment font les enseignants qui sont sans salaire depuis plusieurs mois?
Bon, il y a des écoles carrément qui disent que bon, vous n'avez pas travaillé, vous n'aurez rien. Bon, moi, j'ai dû essayer des compromis. Bon, on va voir si on peut vous payer moitié salaire. Et bon.
Parce que vous-même, vous ne percevez pas de frais de scolarité des élèves dans votre école privée s'ils ne viennent pas en classe.
Au début de l'année, il y a quelques parents qui s'étaient acquittés et c'est ce qui m'a permis pour les mois de septembre et d'octobre de donner quelque chose aux enseignants. Mais après, bon, et je leur avais dit, si ça ne reprend pas, je peux bien faire.
Est-ce que vous avez le sentiment, Josette Bruffard-Thomas, Jean-Marie Théoda, que l'effondrement des structures de l'État, qui ne concerne d'ailleurs pas complètement le système scolaire, qui lui-même était déjà largement autonome, privatisé, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une haine particulière contre l'école, Jean-Marie Théoda, notamment de la part des gangs, ou c'est juste que cette fureur s'abat là comme elle s'abattrait ailleurs?
Je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu, du Village de Dieu, et qui est en résonance avec ce que dit Ghislaine Jean-Louis. Nous sommes en train de faire l'expérience de l'enfer. Et dans l'enfer, il n'y a ni bon ni méchant. Il y a un sauf qui peut, ou dans une ambiance de guerre de tous contre tous, dans le fond, celui qui va à l'école, ça veut dire qu'il a les moyens de le faire, des moyens qui sont presque une sorte d'arrogance par rapport à celui qui, derrière sa barricade, estime qu'il n'a rien. C'est comme si on avait brassé une mare pour faire monter la lie à la surface, et après tout est trouble, il n'y a plus de valeur. Et je comprends que cette dame ait pris la poudre d'escampette pour se mettre à l'abri, parce que j'ai fait exactement la même chose qu'elle. Ces 6 mois d'inactivité, moi je les ai vécus directement, c'est-à-dire en l'absence de ressources, comment fait-on? Dans un pays lock, dans un pays où tout est bloqué, dans un pays où il faut payer pour passer les barricades, pour aller ne serait-ce que faire quelques courses. Et le pire, c'est lorsque la scolarisation participe presque d'un acte criminel. On a presque mauvaise conscience d'amener son enfant à l'école. On est obligé de se
dans
cacher.
Dans un pays où le taux de scolarisation, c'est moins de la moitié de la population, hein, 48% de taux de scolarisation, c'est très peu.
C'est très peu, et dans un pays où l'avenir dépend justement de cette jeunesse qui, si elle n'apprend pas à lire, à écrire, n'aura pas les moyens de faire face aux défis.
Ghislaine Jean-Louis, un dernier mot. Il y a 10 ans, votre école à Port-au-Prince avait été entièrement détruite. Pendant le séisme, vous avez remonté une autre école à Croix-des-Bouquets. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui?
Au lendemain du séisme, j'avais de l'espoir. Mais maintenant, j'ai peur vraiment de mourir et que les enfants continuent à évoluer dans cette situation. Parce que le problème, c'est que les enfants ne sont pas fiers d'être haïtiens. Ils vous disent constamment, par exemple, quand vous faites des leçons d'instruction civique, ils vous disent « Non, non, moi, je ne suis pas haïtien. »
Ah bon?
Pour leur présenter, voilà, ton père est haïtien, ta mère est haïtienne, ils vous disent non. Non, 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 parce que le pays est sale, le pays n'a rien, donc ils ne veulent pas être haïtiens. Et c'est comme si l'enfant grandit avec l'idée qu'un jour, je vais m'en aller et laisser ce pays. C'est ça la mentalité et ça fait mal.
Merci beaucoup Ghislaine Jean-Louis d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite néanmoins de revenir en Haïti, de faire fonctionner l'école à Croix-des-Bouquets. Et merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. On va donner la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Emmanuel François, 23 ans. Bonjour Emmanuel François.
Ah bonjour RFI.
Soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Vous avez 23 ans, vous êtes professeur en littérature haïtienne et de méthodologie en dissertation à l'école secondaire, une école privée dans la commune de Carrefour, dans l'agglomération de Port-au-Prince. Comment vous réagissez par rapport au témoignage que vous avez entendu de Ghislaine Jean-Louis ? Vous-même, je sais que vous faites tout pour continuer à motiver vos élèves, le peu qui continue de vouloir étudier.
Bon, après le désastre du 12 janvier 2010, qui a mis le pays dans le coma, la situation du pays considérée comme une terre sacrée à cause de son noble histoire est calamiteuse. Il n'y a pas vraiment de reconstruction, parce qu'il y a toujours, après 10 ans, beaucoup de gens qui vivent sous des tentes crasseuses dans des quartiers populaires, où la saleté, la misère, la famine, l'insécurité, des insurrections, pour demander d'une part le départ du gouvernement en place et d'autre part l'argent du Pétro-Caribé.
Alors l'argent des Pétro-Caraïbes, on va expliquer avec Jean-Marie Théoda et Josette Bruffard-Thomas, hein, c'est ce fameux programme d'aide d'Hugo Chavez au Venezuela, c'était du pétrole vendu à prix cassé pour que, avec cet argent économisé, Haïti puisse investir dans des programmes de développement.
C'est un mécanisme qui permet à Haïti d'avoir accès donc, au pétrole à un prix préférentiel, à un prix ami, mais surtout avec un paiement différé sur une quarantaine d'années, ce qui permet donc, à l'État haïtien de vendre ce carburant. En fait, c'est une sorte de prêt déguisé. Et cet argent aurait dû servir à des investissements productifs, reconstruire la ville. Je rappelle que c'est un programme qui a été mis en place en 2008, bien avant le tremblement de terre. C'était, on va dire, une opportunité ratée, parce qu'il y avait de l'argent.
2,5 milliards de dollars pour des projets de développement.
Pour des projets de développement, et ces projets, malheureusement, sont partis en fumée.
L'occasion du siècle, certains disent.
On a l'impression que ce qu'avaient fait les Duvaliers pendant près de 2 décennies ne comptait que pour du beurre par rapport à ce qui a été fait ici en moins de 10 ans.
Alors, un rapport public de la Cour supérieure des comptes haïtiennes, qui d'ailleurs a été rendu public sous la pression hein, de mouvements nés sur les réseaux sociaux qui ont voulu que ce rapport soit publié, cite des entreprises du président avant son entrée en politique, au cœur du système des détournements de fonds. Hein, je le rappelle pour que nos auditeurs puissent bien comprendre. Emmanuel François, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous, en tant que jeune et en même temps en tant qu'enseignant. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Comment on fait pour garder l'espoir, pour dire à ses élèves de continuer d'étudier, voire même pour survivre soi-même ?
Bon, c'est assez compliqué parce qu'au niveau de l'éducation, qui est l'un des piliers fondamentaux qui sert de substrat à l'émancipation d'un milieu sociétal, on assiste à une impossibilité qui devient possible. Pourquoi ? C'est parce que les portes des écoles sont fermées depuis une bonne partie de l'automne, c'est-à-dire depuis après les résultats du bac. Pour le moment, il y a un calme momentané, j'ai bien dit momentané. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a sorti une note où il dit que toutes les portes des écoles doivent s'ouvrir aujourd'hui.
Oui.
Et honnêtement, toutes les portes
ce
des
mardi,
écoles
7 janvier.
Doivent s'ouvrir. Parce qu'il y a des zones dans le pays, comme Village de Dieu, Martistan, où l'insécurité règne. Donc les parents vont être apeurés d'envoyer leurs enfants qui sont à l'école dans ces endroits à cause de cette crise.
Et de la présence des gangs.
Voilà, exactement.
Merci Emmanuel François d'avoir été en ligne avec nous. Merci aussi de nous écouter en Haïti. Je sais que vous êtes un fidèle auditeur. Il faut peut-être préciser aussi que la situation économique, Josette Bruffard-Thomas, est catastrophique. On a 45% des personnes qui travaillent et qui gagnent moins d'un dollar 25 par jour. On a parlé de l'école qui est privatisée, mais en fait aujourd'hui, tout est privatisé en
Haïti.
Tout
est privatisé parce qu'il n'y a non seulement pas eu de reconstruction, de vision, de politique publique pour permettre d'avoir le minimum de base qui est l'éducation, la santé, la sécurité, l'eau potable. Il n'y a rien, tout l'argent.
L'eau est vendue en citerne,
l'eau
en bidon, en sachet.
Et prétendument pour eau potable, et puis ce n'est pas potable. Et puis, en plus de tout ça, nous avons connu le choléra. 9 mois après le séisme, il y a eu le choléra qui a tué quand même officiellement 10 000 personnes, mais c'est des dizaines de milliers de personnes. Il y a justement un médecin français, Dr Piaou, qui a écrit un livre sur le choléra, ce désastre que n'a pas voulu reconnaître l'ONU. Donc on a des milliers, des centaines de milliers de familles qui ont été affectées par le choléra, parce que quand vous avez un mort, il faut l'enterrer. Donc la situation économique déjà qui n'était pas favorable, où vous savez que la majorité de la population vit au jour le jour, donc il faut être sur place, dans la rue, dans les marchés, pour avoir le pain quotidien. On ne sait pas ce qu'on va manger le lendemain. Donc quand le marché de Kouadebossal, c'est la première fois, le grand marché de Port-au-Prince est vide, ça veut dire que les gens meurent de faim.
Mais finalement, aujourd'hui, Jean-Marie Théodat, à qui profite la corruption? Parce que même les entreprises aujourd'hui sont dans une situation compliquée.
Je pense qu'à force de vivre dans le chaos, on finit par développer une forme de résilience. Et c'est là que le mot résilience devient un piège. Les entrepreneurs se sont adaptés à cette situation en surfacturant les produits, surfacturant les services, les hôtels. Tout est plus cher en Haïti pour cette raison. Et par ailleurs, c'est une situation qui permet à certains de prospérer. Et comme il n'y a aucune instance étatique capable de faire la différence, je pense que ces forces maintiennent justement le pays en apnée.
Inflation autour de 20%?
Autour de 20%. Si on fait le calcul par rapport à 2010, on peut dire 100%. Parce que la gourde a perdu...
La monnaie locale.
La monnaie locale a perdu la moitié de sa valeur.
Je voudrais vous lire le message de Prophète qui a posté, qui est à Port-au-Prince, dans un quartier aisé d'Elmas. Il est entrepreneur d'un petit business qui a fait faillite. Et il nous dit, moi je ne veux pas faire de message audio parce que j'ai peur de l'État. Il peut tout faire pour éliminer quelqu'un qui ne suit pas sa ligne. Je milite contre la corruption dans mon pays. Il y a quelques années, on vivait un peu mieux. Aujourd'hui, je ne peux plus travailler, nous dit Prophète. L'État n'a jamais créé d'opportunités pour qu'on travaille. Moi, je fais partie d'un groupe qui demande chaque jour des comptes sur l'argent de Petro-Caraïbes. On mène des actions comme des sittings. On réfléchit à l'avenir. On risque notre vie pour une vie meilleure, pour le futur de notre pays.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
On accueille maintenant au téléphone Jackie Lumarck, recteur et fondateur de l'université privée Kiskeya à Port-au-Prince. Bonjour Jackie Lumarck.
Bonjour Emmanuel.
Jackie Lumarck, merci d'être en ligne avec nous. Pouvez-vous nous dire déjà où en est cette université si prestigieuse en Haïti que vous avez fondée voilà, de nombreuses années?
Bon, nous avons connu des moments difficiles, hein, comme vous le savez, avec le tremblement de terre. On a survécu, on a fonctionné sous les tentes, on a fonctionné dans les rues. Mais là, le moment qu'on vient de vivre est particulier. Nous avons pu garder nos portes ouvertes pendant tous les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, en assumant tous les coûts, les charges, mais malheureusement sans pouvoir accueillir les étudiants qui n'étaient pas en situation de prendre des rues pour arriver à l'université. Et là, aujourd'hui, nous sommes face au défi de nous organiser pour une réouverture cette semaine. Et c'est encore un pari qu'on fait. La situation générale du pays est encore très incertaine.
Comment vous allez faire concrètement pour accueillir des étudiants avec de la sécurité?
C'est pour ça que j'ai dit que c'est un pari. Et pendant les mois qui se sont écoulés, nous avons tout fait pour garder nos professeurs sur le payroll. Nous avons continué à offrir des services au niveau des chercheurs. Les laboratoires de recherche ont pu fonctionner. Nous allons par exemple sortir ce mois-ci un numéro spécial sur la recherche à l'université qui va vous montrer la dynamique de productivité, de créativité dans la recherche, parce que nos laboratoires de recherche pouvaient fonctionner. Mais malheureusement, les étudiants n'avaient pas la possibilité de prendre des rues, de traverser les barricades pour arriver à l'université.
Durant les années où ça fonctionnait bien, l'université Quisqueya, c'était combien d'étudiants inscrits ?
3500 par an, en moyenne.
Et aujourd'hui ?
En septembre, il n'était qu'à peu près une centaine à être inscrits. Il a payé les droits de scolarité et a rempli les conditions pour suivre la scolarité.
Restez en ligne avec nous, Jackie Lumarque. Je voudrais qu'on écoute le témoignage d'un auditeur qui a posté sur WhatsApp et qui souhaite parler du ressentiment de la jeunesse à l'heure actuelle contre l'aide internationale et les étrangers.
Bonjour, je suis Watson. J'écoute l'émission à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. On avait planifié environ 10 milliards de dollars pour aider à reconstruire Haïti, mais malheureusement, on ne sait où a passé cet argent jusqu'à présent. Rien n'est reconstruit dans le pays. On a effondré le pays dans une pauvreté extrême. La misère augmente. Il y a également le taux d'inflation à 29%. Rien ne va pour le peuple sur la situation sociale, politique, économique du pays. Et malgré tout cela, aujourd'hui, bon nombre de dirigeants de ce gouvernement sont mêlés totalement, profondément dans les actes de corruption jamais vus dans l'histoire de ce pays. Malheureusement, ils sont supportés par un grand nombre de partenaires internationaux et qui se disent être des amis d'Haïti. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un sentiment anti-occidentaux profond dans ce pays, la jeunesse intellectuelle surtout. Si on les questionne, ils disent qu'ils n'apprécient pas la position des pays qui se disent amis d'Haïti, surtout les pays occidentaux. Il y a des propagandes qui se font dans les camps du gouvernement, mais le pays ne connaît rien de positif.
Jean-Marie Théoda, géographe, Josette Bruffard, Thomas de l'association franco-haïtienne d'aide dédiée à la culture, à l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle de cette grande méfiance? Parce qu'au lendemain du séisme, Haïti attendait l'aide internationale, qui est arrivée d'ailleurs massivement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Et finalement, quel est le bilan de 10 ans d'aide internationale? Jean-Marie Théoda, Josette Bruffard-Thomas.
Moi, j'ai pour habitude de d'abord faire notre autocritique avant de dire que c'est la faute des autres. C'est Martin Luther King qui disait « Si vous n'aviez pas le dos courbé, on ne peut pas vous mettre à genoux ». Donc, j'ai toujours essayé d'avoir les épaules droites, justement, pour qu'on ne me mette pas à genoux. Donc, il faut d'abord faire notre autocritique en tant qu'Haïtien. Mais c'est vrai que ça a été la grande déception aussi. Je peux vous dire que ces 10 ans, pour moi en tout cas, c'est vraiment une sorte d'impasse dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, puisque j'ai presque tout abandonné de mon travail personnel pour repartir en Haïti. Et j'ai vu ce pays s'effondrer. Et ces 10 dernières années, il n'y a jamais eu autant d'argent rentré dans ce pays d'Haïti dans un temps aussi court que ces 10 dernières années, et le pays n'a jamais été aussi misérable que maintenant. Donc il y a eu vraiment, par exemple, justement cette aide, ces montants d'aide internationale gérés par un président quand même de la plus grande puissance du monde, Bill Clinton. Tout le monde espérait que Bill Clinton allait venir aider, avec un premier ministre haïtien, Belrive, aider à structurer cette aide internationale. Tout était clair, il ne fallait même pas chercher à dire où est-ce qu'on va investir, puisqu'il y avait tellement de choses à faire, tellement à reconstruire, et tout cet argent a été dilapidé, a été volé, c'est un niveau de corruption, mais je pense des fois à des charognards qui arrivent sur des cadavres et qui utilisent cet argent pour eux-mêmes.
Pas seulement par les dirigeants haïtiens, Jean-Marie Théoda.
On a parlé parfois, ironiquement, d'Haïti comme de la République des ONG. C'est-à-dire un pays où la parole d'un directeur d'ONG valait davantage que celle d'un ministre, voire parfois d'un président de la République. Je pense que c'est un peu dans la continuité de ce que nous avons dit tout à l'heure à propos de l'abolition de l'armée, la dissolution de l'armée. Haïti, en 2010, était déjà un modèle d'État effondré, d'État failli, comme on disait à l'époque. Sauf que c'était toujours une métaphore quand on parlait de faillite de l'État. Là, la fiction avait été rejointe par la réalité. Le pays s'est physiquement effondré, le palais présidentiel, la plupart des ministères se sont effondrés, de sorte que après, il n'y avait plus d'interlocuteur. Et je pense que si l'argent a été si mal utilisé, c'est parce que, d'abord, il n'y avait pas d'éléments d'ancrage, d'institutions capables d'accueillir, de recevoir cette aide, ce qui fait que, au lieu d'être dirigé vers la satisfaction des besoins et des besoins réels qui étaient urgents de la population, cet argent a percolé dans les poches des responsables haïtiens et étrangers.
Mais alors justement, Jacky Lemarque, à l'heure où, on le disait en début d'émission, l'aide d'urgence, il va y avoir 4,5 millions d'Haïtiens qui vont avoir besoin d'aide d'urgence là, pour l'année 2020. La jeunesse se prononce, enfin, est de plus en plus méfiante par rapport à l'aide internationale pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est souhaitable finalement, Jacky Lemarque?
Bon, effectivement, cette annonce de 4 millions d'Haïtiens en situation de stress alimentaire et l'aide d'urgence qui est demandée, ça me fait peur. Ça me rappelle le moment de 2010 où j'ai vu s'accumuler toute une machine internationale avec une capacité de mobilisation de ressources importantes, et soi-disant pour Haïti, mais j'aime dire à propos d'Haïti. Et on a vu ces ressources surfer sur le tête. Et finalement, ne pas servir aux besoins des Haïtiens. Mais il y a un paradoxe que je voulais signaler à ce propos. C'est vrai que l'aide internationale traditionnelle est une aide fallacieuse. Ça veut dire qu'elle s'énonce comme devant répondre à des besoins des bénéficiaires, mais qui trouve une façon de satisfaire les exigences des propres donateurs. Mais ce qui est le paradoxe, c'est que nous avons connu une autre forme d'aide un peu différente à travers le projet Petro-Caribé. Voici une aide qui était cette fois-ci distincte parce qu'elle était ouverte, généreuse, stratégique, sans conditionnalité.
Une aide sud-sud.
Et bien, voilà. Et ensuite, pour une fois, à la disposition des Haïtiens, qui avaient la capacité d'en disposer à leur gré. Et qu'est-ce que nous avons fait? C'est ça qui est grave. Là, ce n'est pas l'étranger qui est en cause, c'est un nous. Et c'est pour ça que j'appelle ça une catastrophe institutionnelle. C'est vrai qu'Haïti est un pays vulnérable, ça veut dire qu'on a été souvent victime de nombreuses catastrophes naturelles, 4 cyclones en 2008, les inondations au quotidien, les éboulements, les tremblements de terre, choléra. Mais ce qui est plus grave pour nous Haïtiens, c'est cette série de catastrophes institutionnelles, je dirais, au quotidien, qui s'exprime en premier lieu à travers le mode de gouvernance de nos institutions.
Jacky Lemarque, est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, la jeunesse vous donne de l'espoir? Je pense notamment à ce mouvement des Petro Challengers, né sur les réseaux sociaux à la suite de la photo qui avait été postée par l'écrivain cinéaste Gilbert Marambeau en août 2018, où il y avait sa photo, les yeux bandés et une pancarte en carton, où il était écrit en créole « Où est l'argent de Petro-Caribe ?» Ça a été très, très, très relayé. Les jeunes se sont reconnus aussi devant ce questionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette jeunesse, qui constitue 70% de la population, a une possibilité de rebondir?
Je dirais que c'est un cri d'espoir. Il est vrai que, en tant qu'éducateur, j'écoute souvent les cris des parents, j'écoute souvent les inquiétudes d'autres éducateurs qui se plaignent par rapport aux routes qui sont bloquées, aux manifestations qui sont un peu violentes, qui bloquent le fonctionnement des institutions, qui détruisent les actifs des PME et même des petits opérateurs du secteur informel, et qui en quelque sorte contribuent à décapitaliser l'économie en général. Il y a une baisse de la production, il y a une perte de denrées agricoles, il y a l'évanouissement du secteur touristique par exemple. Tout ça contribue vraiment à une baisse de notre PIB. Mais ce que le cri de ces jeunes montre, c'est une résistance contre ce que j'appelle cette violence institutionnelle permanente, et je dirais sauvage, qui s'exprime dans le mode de gouvernance du pays. C'est une violence dans la corruption ouverte et banalisée, dans la dilapidation des biens publics, au regard d'une population d'une telle pauvreté. Sans compter, Emmanuel, l'arrogance et l'ostentation avec lesquelles des richesses volées sont étalées aux yeux de tous. Alors, une telle violence, comment s'exprime dans le fonctionnement des institutions judiciaires aussi? Un voleur de poule peut passer des années en prison sous forme de détention préventive. Des voleurs, des trafiquants de drogue, des marchands d'armes connus continuent d'opérer sous la protection des pouvoirs publics. Et ensuite, des gangs armés financés par les pouvoirs publics, protégés par les pouvoirs publics et utilisés parfois par les pouvoirs publics comme auxiliaires de la justice ou de la répression.
Merci beaucoup, Jacky Lumarque, d'avoir été en liaison avec nous. Je sais que vous devez partir à l'heure où nous enregistrons cette émission à la veille de sa diffusion pour vous permettre justement de participer malgré le décalage horaire. Je sais que vous devez partir en réunion pour mettre au point la réouverture de l'université Quisqueya, et c'est bien sûr tout le bien que l'on vous souhaite. Josette Thomas Bruffard, sur la jeunesse, comment vous voyez un espoir ?
Bon, je pense que l'espoir repose beaucoup justement sur cette jeunesse qui attend, et cette jeunesse aussi qui est née, c'est les trentenaires, c'est-à-dire c'est justement après le départ de Duvalier. Alors, en même temps, le paradoxe qui fait peur aussi, c'est que cette jeunesse n'a pas connu la période de Duvalier et entend souvent que c'était mieux sous Duvalier. Et aujourd'hui, cette jeunesse, alors, le bon côté, c'est que cette jeunesse n'a pas peur, puisqu'elle n'a pas connu la répression de Duvalier, elle n'a pas peur, donc c'est un bon point. Mais de l'autre côté, le fait qu'il n'y ait pas eu de devoir de mémoire, de transmission de mémoire, cette jeunesse est prête, une partie en tout cas de cette jeunesse, et banalise le retour, un éventuel retour au pouvoir même de la clique Duvalier. D'ailleurs, il y a le petit-fils, Nicolas Duvalier, qui s'apprête à revenir au pouvoir. Donc, ça, c'est, on se demande où est-ce qu'on va avec ça. En même temps, ce que je peux dire aussi de cette jeunesse, moi qui travaille avec l'association Haïti Futur depuis 25 ans, donc on travaille vraiment dans l'éducation, et surtout l'éducation de base. Donc là, on travaille, par exemple, sur un programme de développement de technologie dans les écoles par rapport au tableau numérique interactif. Hier, j'ai reçu le rapport justement d'évaluation de ce programme qui est en partie financé aussi par l'AFD.
Et on a plus de
l'Agence française de développement. On a plus de 700 écoles équipées aujourd'hui de panneaux solaires, de tableaux numériques interactifs dans tout le pays. Donc on accompagne même le ministère de l'Éducation en ce sens. Donc on voit l'engouement des Haïtiens pour l'apprentissage, l'engouement des Haïtiens pour le savoir, pour l'éducation. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est un peuple qui attend son espoir, c'est l'éducation. C'est-à-dire, les parents peuvent être marchands au bord d'une route et faire tout le sacrifice qu'il faut. Je me rappelle, après le séisme, les gens ne demandaient pas un logement, ils demandaient de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Nous, c'est pour ça qu'on est arrivé avec ce programme numérique, pour permettre une massification de l'éducation en même temps avec de la qualité.
Et en même temps, Jean-Marie Théoda, comment on rétablit la sécurité dans un pays qui est aux mains des gangs, et pas seulement d'ailleurs aux mains de gangs à la solde du pouvoir, pas seulement du tout.
C'est ce que j'appelle la guerre de tous contre tous, parce qu'au fond, ce sont parfois des gangs improvisés. Le premier qui a un pistolet peut s'improviser chef de gang, monter une barricade et faire payer les différents passants.
Est-ce que vous avez un espoir sur la diaspora haïtienne aux États-Unis ?
C'est tout ce qui reste de bon dans le pays. On dit que 85% des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master habitent à l'étranger. C'est-à-dire que les forces vives du pays sont à l'extérieur.
Sur son pouvoir à peser sur Donald Trump pour un règlement politique ?
Ça, c'est différent. Non, je ne pense pas que d'un point de vue géopolitique, la diaspora est le moindre mot à dire, parce que dans le fond, une fois qu'on habite à l'étranger, on devient le Pékin, on devient le commun des mortels, on n'a plus véritablement... Nous ne sommes pas une communauté suffisamment forte pour peser sur la politique étrangère de n'importe quel pays, mais en revanche, lorsque la diaspora s'organise en réseau et permet de tendre la main à ceux qui sont à l'intérieur, ça c'est de la résilience. C'est ce qui probablement a permis à ce pays de survivre sur ces 30 dernières années.
Avec une alternance politique ou pas ?
L'alternance politique en Haïti, personnellement, je n'y crois plus, parce que dans le fond, les élections passent et ce sont à peu près les mêmes qui reviennent sous d'autres jours, avec parfois des slogans sensiblement différents. Mais à moins d'une véritable révolution politique, à moins d'un leadership qui donne à cette jeunesse un idéal qui soit compatible avec le bien commun, je ne vois pas d'avenir. Je rebondis sur ce que disait Josette tout à l'heure, savoir que cette jeunesse qui est l'espoir du pays, moi quand je fais cours à mes étudiants et qu'ils me demandent justement que faire, je leur dis « partez ». Parce que dans l'immédiat, le pays n'a absolument rien à vous offrir. Nous tous qui aujourd'hui œuvrons dans le pays ou à l'extérieur de façon à l'aider, nous tous avons eu la chance de partir à un moment donné. Partez, allez à l'étranger, là où les conditions sont meilleures, exactement comme moi je l'ai fait, comme Josette l'a fait, comme tous nous l'avons fait, mais à une condition, revenez. Revenez en moment propice.
Banco mamanta ite Jakala sita Malomwenye sabo Banco mamanta ite Jakala sita Malomwenye sabo Jakala sita malomrenye sabo Banko mamaltaite Jakala sita malomrenye sabo Aiti wo aiti malomrenye sabo Dibona Yakala sita malamunisa Samana tale Yakala sita malamunisa Alfalu yakala Yakala sita Janjantaiti Jakala sita Malomrenyesa Aiti wo Aiti Malomrenyesa
Merci à vous tous Josette Bruffard-Thomas Merci à vous Jean-Marie Théoda Merci à Jackie Lumarck, à Ghislaine Jean-Louis. Merci à toute l'équipe. À demain, 7 milliards de voisins sur RFI. RFI se décline en deux.